Boire un coup, rigoler un bon coup avec vous, Alain Baraton. Bonjour Alain.
Et ce sera avec plaisir. Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Bonjour, et sachez que moi aussi, pendant cette période de confinement, mes cheveux ont grave poussé.
Oui, comme disent
mais
les
jeunes. J'allais vous poser la question, justement.
Alain Baraton, jardinier en direct de votre bureau du parc de, à Versailles. Ce matin, vous voulez nous rappeler qu'il existe une grande diversité d'œillets.
Les œillets de Chine, les œillets de poètes originaires d'Europe et d'Asie, les œillets d'Inde qui, contrairement à ce que leur nom semble indiquer, sont originaires du continent américain, et bien sûr, ceux qui ont ma préférence, les œillets de fleuristes. Alors, sous Louis XVI et à Versailles, ces fleurs sont cultivées pour leur beauté bien sûr, mais aussi pour leur senteur, ce qui, il faut l'avouer, n'est pas un luxe dans un lieu qui manque cruellement d'hygiène.
Et la présence des œillets a donné des idées à Jean-Louis Fargeon.
Oui, cet homme exerce le très beau métier de parfumeur gantier. Et ses œillets préférés sont ceux qui fleurissent rouges. Alors le matin, à la fraîche, il va en cueillir dans les jardins de Trianon, puis il les étale délicatement sur sa table de travail, puis pose dessus les gants qu'il vient de coudre. Pour faciliter au mieux la pénétration dans le tissu des senteurs délicates, les gants sont imprégnés d'huile d'amande et de cire vierge. Alors le succès est immédiat et sa principale cliente, la reine Marie-Antoinette en personne, ce n'est quand même pas rien, ne portera pratiquement tout au long de sa vie que des gants signés Jean-Louis Fargeon.
On dit parfois, Alain, qu'offrir des œillets porte malheur.
Eh oui, et cette superstition est née à la fin du 19e siècle quand les comédiennes sont recrutées à l'année dans les théâtres comédiennes ou les chanteuses, les cantatrices dans les opéras. À cette époque, un directeur un peu timide n'ose pas avouer à une actrice qu'il ne reconduira pas son contrat et lui envoie, comme la tradition le veut, mais pour lui signifier toutefois eh bien, sa décision, il ne lui offre pas un bouquet de roses, mais un bouquet d'œillets. Alors, en le recevant, l'actrice a compris le message et il se dit alors que notre homme aurait reçu pour réponse les fleurs en pleine figure. Eh bien, depuis cette époque-là, il n'est pas bon d'en offrir et facile à comprendre pourquoi, dans le langage « offrir des œillets » signifie « vous avez une rivale ».
Oui, effectivement, ce n'est pas très galant. Pourquoi nous parler des œillets aujourd'hui, 25 avril ?
Alors jusqu'en 1974, le Portugal est une dictature et il n'est pas conseillé de contester le pouvoir en place. Des officiers de l'armée et une partie de la population décident de réagir pour mettre en place une véritable démocratie. Le signal de la révolte sera la diffusion à la radio nationale de Grandola, Ville Brune, une chanson révolutionnaire qui parle de liberté. Les insurgés ont choisi le marché aux fleurs de Lisbonne comme point de ralliement. Nous sommes un 25 avril et les fleurs sont plus nombreuses que les œillets. Sitôt la chanson entendue, les insurgés mettent la fleur, et c'est un très beau symbole, dans le canon de leur fusil. C'est la révolution des œillets et la liberté retrouvée.
Et la révolution des œillets en avril 74 donc. Merci Alain Baraton. Vos conseils après.
Un œillet à la boutonnière pour un homme en tenue de soirée, je trouve ça très chic et très sexy.
Mais tout à fait, et ça a malheureusement un petit peu perdu sa tradition. La dame aux camélias mettait également des camélias, soit sur son chapeau, soit à la boutonnière, pour montrer, j'allais dire, ses dispositions. Mais il est bon de marquer que la fleur est un symbole puissant. On parle à l'instant de la révolution des œillets. Il y a eu plus proche de nous la révolution du jasmin. Et regardez combien la fleur est un symbole, même en politique. La rose socialiste, la fleur des royalistes, également le lys. Non, c'est fort la fleur.
Vos réponses à présent aux conseils et vos conseils aux questions des auditeurs ou auditrices qui nous ont écrit sur France Inter.
On pourrait faire le contraire d'ailleurs. On pourrait demander aux auditeurs qui donnent des conseils de
botanique
à Alain Baraton.
Mais pourquoi pas ? C'est ça l'avantage du métier. On continue tout au long de sa vie d'apprendre. Mais sachez, et je le dis très sérieusement, qu'à force de répondre à toutes ces questions, je finis parfois moi-même par apprendre quantité de choses. Vraiment, on continue d'apprendre grâce aux auditeurs.
Séverine voudrait vous parler de son Acer Palatum Good Blue. Il est en plein débourrage. Il a pris une petite gelée. Il a tendance à sécher. À quoi dois-je m'attendre dans le pire des cas ? D'abord, le débourrage, ça veut dire quoi ?
C'est quand les bourgeons souffrent, c'est le signal de la renaissance, c'est vraiment les feuilles qui apparaissent. Il est vrai que le langage du jardinage est parfois déboussolant. On parle de débourrage. C'est l'éclosion des bourgeons, pour faire simple. Lorsque l'on arrose une plante à la plantation et qu'on y met beaucoup d'eau, on va parler de plombage. Lorsque l'on va couper une petite tige avec les ongles, on parle de pincement. Il y a un langage jardinage, mais qui est un joli langage. Alors, parfois, il y a des mots un peu savants. Là, vous venez de parler de l'Acer palmatum good blue, un nom un peu technique. C'est un érable du Japon qui se caractérise par des feuilles d'une couleur fabuleuse qui changent au fil des saisons. Il est en ce moment rouge vif. Il est absolument merveilleux. Le drame de cet érable, c'est qu'il vit dans la terre de bruyère et que la terre de bruyère sèche vite. Alors, pour peu que cet érable soit planté en plein soleil, au vent, et qu'il n'ait pas été arrosé depuis un mois ou deux, il n'y a aucune raison qu'il continue à vivre ainsi, il est mort.
Mathieu, un jasmin planté sur une terrasse, et chaque année, il lutte, Mathieu, contre des, et le jasmin aussi, contre des bestioles qui ont été livrées avec la plante. Les feuilles deviennent collantes, et puis elles meurent rapidement. J'ai traité chimiquement, dit Mathieu, et puis j'ai rabattu la plante déjà deux fois, mais chaque année, les bestioles reviennent. Alors, que puis-je faire?
Mais écoutez, je vais déjà vous expliquer ce qui se passe. Ce sont des insectes qui se nourrissent de la sève et la piqûre provoque de la fumagine. La fumagine, c'est un champignon qui se développe sur le miellat sécrété par les insectes. Et ce miellat, ce côté collant, va affecter la photosynthèse, ce qui explique pourquoi le jasmin a quelque peu de difficulté à être souriant, car il arrive, oui, que les plantes soient souriantes. Eh bien, ce qu'il faudrait faire, c'est se débarrasser des insectes, sauf que si on se débarrasse des insectes, on éloigne les oiseaux, et j'ai pas envie, moi, en ce moment de confinement, de ne plus entendre les oiseaux. Alors, eh bien, on se contentera simplement de prendre un tuyau d'arrosage ou un arrosoir, d'arroser par le dessous des feuilles les plantes qui, parce que ces insectes-là détestent l'eau. Logiquement, si elle est tirée à distance, logiquement, pendant quelques temps, le jasmin ira mieux. Ça ne réglera pas le problème définitivement, mais au moins pendant quelques temps, il n'y aura ni insectes, ni fumagine, ni problème de photosynthèse.
On a beaucoup parlé, Alain. Donc, un livre rapidement pour terminer.
Oh, bah, très rapidement. Protéger les petits animaux du jardin. C'est un ouvrage signé Helga Hoffmann. C'est publié chez Marabout. Tout est dit dans le titre. C'est-à-dire en ce moment.
Les bons tuyaux d'arrosage, évidemment. D'Alain Baraton. À demain, Alain.
À demain.